France Inter.
Bonsoir Camille, vous écoutez France Inter, c'est l'heure de faire du tapage. Tapage, nom masculin, bruit excessif, boucan, vacarme. Le tapage, c'est le son qui trouble le voisinage, qui résonne dans la nuit, vous empêche de dormir. C'est le nom de votre nouveau rendez-vous musical sur France Inter. Jusqu'à 21h, on fait monter les décibels, on tend l'oreille au son de notre époque. Avec ce soir une artiste libanaise qui s'empare des musiques traditionnelles arabes pour mieux les transformer, se les approprier. Elle s'appelle Yasmine Hamdan. Et moi, c'est Camille Diao, bienvenue dans mes oreilles.
Tapage, Camille Diao sur France Inter.
Cette semaine, mon invitée s'appelle donc Yasmine Hamdan. Ça, c'est la voix d'Yasmine à ses tout débuts, époque Soap Kills, groupe culte de l'underground libanais. On est à la fin des années 90 et pour écouter Soap Kills, ici en France, à l'époque, faut aller chez le disquaire et fouiller dans le grand bac tout au fond de la pièce, celui des musiques du monde. Vous savez, c'est le fameux bac où les divas capverdiennes côtoient aussi bien les ensembles cubains que les chœurs bulgares. Musique du monde, un terme un peu fourre-tout qui sonne aujourd'hui carrément obsolète. D'ailleurs, depuis 2021, aux Grammy Awards, les victoires de la musique américaine, la catégorie World Music a laissé place à
For Best Global Music Album, the nominees are
Global Music, musique globale, un terme jugé, je cite, plus pertinent et plus moderne. Et pour comprendre d'où venait le malaise, un petit retour en arrière s'impose. La world music, c'est avant tout une catégorie marketing. Et il y a un album qui a joué un rôle clé dans son émergence, c'est Graceland de l'américain Paul Simon. En 1986, ce disque, enregistré à Johannesburg, connaît un succès mondial. Alors évidemment, Paul Simon n'est pas le premier occidental à s'intéresser aux musiques venues d'ailleurs. Bien avant lui, les Beatles sont partis en Inde, les Rolling Stones au Maroc. Mais la tendance a pris de l'ampleur. Et Paris, en particulier, est dans les années 80 un lieu d'effervescence et de métissage musical. Des artistes du monde entier s'y croisent et donnent naissance à ce que le magazine Actuel et la station Radio Nova baptisent la Sono Mondiale. Donc quand sort l'album de Paul Simon, le public est fin prêt et l'industrie musicale cherche à marketer ses nouvelles sonorités. Et c'est précisément à cet effet qu'en 1987, un groupe de producteurs se réunit dans un pub londonien et s'accorde sur l'expression world music. Ce terme, dès l'origine, il est à double tranchant. Parce que d'un côté, il permet de donner une visibilité à des artistes non occidentaux, il permet de développer tout un écosystème qui va faire émerger des stars internationales. Parmi eux, il y a le Sénégalais Youssou N'Dour, mais de l'autre, la world music, elle réduit des musiques extrêmement diverses à un même ensemble un peu flou, vaguement exotique et folklorique. Ça, ça en dit long sur le regard que l'Occident porte sur le reste du monde. Et aujourd'hui, symboliquement, ça ne passe plus. Et puis, ça ne correspond plus tellement aux nouvelles dynamiques de circulation et de consommation de la musique. Je pense par exemple au succès mondial de la K-pop. À l'heure d'Internet et du streaming, les Coréens n'ont plus vraiment besoin de la validation occidentale pour s'exporter dans le monde entier. Autre exemple, ce tube du Nigérien Rema, sur lequel il invite la pop star américaine Selena Gomez. C'est de l'afrobeat, un son 100% africain, mais ça n'a plus rien d'exotique pour les oreilles occidentales, tant la pop est devenue globale et interconnectée. Finalement, moi je me dis que peut-être ce terme, world music, il n'a jamais été aussi pertinent, mais il doit changer de sens. On doit désormais y intégrer les artistes de tous les continents. Et voici justement une artiste qu'on aurait peut-être rangée à l'époque dans le grand tiroir des musiques du monde, juste parce qu'elle vient de Martinique et qu'elle chante au créole. Mais aujourd'hui, le chata, son style musical, on l'entend sur les dance floors du monde entier. Elle s'appelle Maureen et on l'écoute tout de suite sur France Inter. Quand Maureen s'empare du chata martiniquais et le passe à la moulinette électronique, ça donne ce titre qui vient de rentrer en playlist, qui s'appelle Automatique, un titre que j'avais très envie de faire entendre à mon invité du soir, Yasmine Hamdan. Bonsoir Yasmine.
Bonsoir.
Et bienvenue dans ta page.
Merci.
Je suis très heureuse de te recevoir et j'avais envie de te faire entendre ce morceau parce que Maureen, non seulement elle réinvente une musique martiniquaise en la mélangeant avec d'autres sonorités, mais en plus, pour les connaisseurs, il y a un petit clin d'œil dans ce morceau à un tube guadeloupéen des années 70. Si vous êtes curieux, il s'appelle Tiki Tac Tiki Tac, c'est Christian Yeye. Et je me suis dit que finalement, sa démarche artistique, elle est assez similaire à la tienne.
De toute façon, on n'en crée jamais de zéro. On est toujours en train de regarder le passé, d'écouter les références qu'on a, sur lesquelles on a grandi, les références de nos parents. Moi, en tout cas, en ce qui me concerne, c'était ma manière aussi de retisser le lien avec mon pays, avec ma culture, de réécouter ce que mes parents ou mes grands-parents écoutaient, mais puis comme j'étais qui j'étais et que j'étais complètement ailleurs, de les retranscrire autrement.
Alors, je parlais en ouverture de cette notion un petit peu datée de world music, musique du monde. Comment tu l'entends, toi, ce terme-là ?
Pendant des années, je l'ai très mal pris. J'étais très vexée au départ parce que au Liban, on ne savait pas où mettre notre musique à l'époque de Soap Kills. C'était ni de l'arabe pour eux, ni de l'anglais. Vraiment, même si je chantais en arabe, ce n'était pas vraiment de l'arabe pour eux. Donc je ne passais pas à la radio là-bas, ni à la télé, et ni anglaise, ni arabe. Quand je suis venue ici, je me suis dit, ah, enfin, on va me comprendre. Et là, j'étais face à des gens qui me disaient, mais on ne sait pas où vous mettre. Vous n'êtes pas vraiment world, mais vous n'êtes pas vraiment trip-hop. Et là, je me suis dit, j'en ai marre.
Pas assez folklorique, d'une certaine façon, pour des oreilles françaises.
Oui, ça ne marchait pas forcément. L'idée qu'on se faisait, en fait, de ce que la musique arabe devait sonner, en fait, n'était pas tout à fait synchro avec ce que je faisais.
Et tu me disais, Oroten, que donc, toi, tu arrives en France en 2005, si je ne me trompe pas, qu'on a tendance à te catégoriser dans cette world music ou musique du monde et que ça t'énervait beaucoup.
J'avais l'impression que c'était discriminatoire, un peu raciste. Et surtout, quand je participais à des festivals où il y avait des artistes nommés World Music, ils étaient toujours habillés un peu de manière folklorique, un peu déguisés. C'était ridicule pour moi. C'est un fourre-tout, en gros. Oui. Pour moi, c'était un peu un terme colonial. maintenant, j'ai un peu de recul et je rigole parce que il a plus la même importance. Les gens ont compris que c'était des frontières qui n'existent pas réellement.
Oui, c'est un mot qu'on entend beaucoup moins aujourd'hui. Alors Yasmine, je prends quand même le temps de te présenter. Tu es donc musicienne, à la fois chanteuse, autrice, productrice d'origine libanaise. Tu t'es donc fait connaître à Beyrouth à la fin des années 90 au sein de ce duo Soap Kills qu'on a cité, qui a participé en quelque sorte à la renaissance artistique du Liban après la guerre. Depuis, tu es devenue une sorte d'icône underground du monde arabe. On t'a vu notamment chanter dans une scène d'anthologie du film de Jim Jarmusch, Only Lovers Left Alive. Et tu viens donc de sortir ton troisième album solo qui s'appelle I Remember, I Forget. C'est un album assez fascinant, hypnotique, chanté en arabe, pour lequel tu allais puiser dans de très nombreuses traditions musicales. Mais plutôt que vous décrire le son de Yasmine Hamdan, je vous propose de plonger tout de suite dedans en musique. Yasmine, est-ce que tu es prête ?
Oui, merci.
Eh bien, je te laisse rejoindre tes musiciens qui sont au taquet, on les entend déjà. vous écoutez ta page et c'est Yasmine Hamdan en live spécialement pour vous.
شو صاير هون انهيار وقمح يوم ورا يوم بستجوب التليفون قتيل بغرفة النوم كل يوم بروت قتلهم مش قادرة افصل خلاص خلص الحكي أرضي صغير جرح كبير ناس تضل ناس تضل وناس تغيب غيب بوسط السلام غيمة حزن معي هزت بدن والتلفزيون خلاص خلص الحكي هون أرضي صغير جرح thank you.
C'était Yasmine Hamdan en live pour ta page, accompagnée de Conmin Fan au clavier, Raphaël Séguigné à la batterie et Cédric Leroux à la guitare.
Ta page. Camille Diao. Sur France Inter.
Merci beaucoup Yasmine et merci aux musiciens.
Oui, oui, ils sont super.
C'était très beau. Ce titre, il s'appelle Hon. Ouais. C'est donc le morceau d'ouverture de ton nouvel album. Et je crois que c'est un morceau qui est né d'un moment très particulier pour toi, puisque sa naissance, c'est quelques mois après l'explosion du port de Beyrouth en 2020.
Oui, c'est le premier morceau que j'ai écrit pour cet album. Et c'est un peu le morceau qui m'a ouvert la porte. Et quelque part... m'a aidé en fait à comprendre un peu la vibration que je veux pour cet album. Donc on parle de 2020, du 4 août 2020. Il y a l'explosion du port de Beyrouth. Moi je suis à Paris. Ma famille, mes amis, tout le monde est à Beyrouth. Je reçois un coup de fil de ma sœur une minute après. Et j'entends tout. Et c'est vrai que ce moment-là, il y a eu une bascule où j'ai mis plusieurs mois à digérer ce qui était arrivé. Heureusement, il y a eu des personnes qui étaient blessées, mais heureusement tout le monde est vivant, donc ça c'est déjà bien. Il y avait un avant et un après, parce qu'aussi à ce moment-là, moi toutes les nouvelles que je recevais, c'était via les réseaux sociaux, donc via mon téléphone, et j'avais l'impression que ça avait complètement envahi mon univers. Et je me sentais complètement... j'avais plus la possibilité de faire de séparation. J'ai l'impression que je vivais entre deux temporalités, deux espaces. Mon corps était ici et une partie de moi était là-bas. Et j'étais dans cette tension. Et c'est vrai que cet album-là est né après coup. J'ai voulu écrire quelque chose et transformer cette expérience. La réflexion, le chemin de la réflexion, puis j'ai collaboré aussi avec un poète palestinien, Anas El-Haïli. Le chemin a fait que j'ai voulu articuler cette expérience visuellement, avec peu de mots et avec une ouverture quand même sur le refrain, parce que j'aimais beaucoup l'idée que c'est un petit pays avec une grande blessure et qu'il y a des gens qui restent, et il y a des gens qui sont absents. Dans l'absence, il y a toujours une ouverture ou une promesse de retour. Et il y a le lien. C'est comme ça que ce morceau-là est né.
Quand tu parles justement de ce petit pays avec une grande blessure, moi j'ai le sentiment que dans ces mots-là, on entend le Liban, mais que ça résonne bien au-delà du Liban. Il y a plein de personnes qui viennent d'autres pays qui peuvent se retrouver dans cette...
En fait, c'était l'expérience de diaspora. On est beaucoup à vivre dans des pays où les choses sont plutôt stables et où les gens qu'on aime sont au pays. On parle, ça peut aller de la Palestine à la Syrie, au Congo, au Soudan, etc., etc. Cette expérience n'est pas unique du tout. C'est l'expérience de la diaspora, je dirais.
Et cette sensation un peu de dissociation que tu décrivais, à savoir être ici, mais avoir l'impression d'être là-bas. Tu as cette phrase dans le morceau qui l'exprime très bien. Tu dis « Il y a un corps mort dans ma chambre ».
Et oui, oui. En fait, on est submergé par des émotions qui sont pas que de la tristesse ou de la souffrance. C'est aussi beaucoup de colère, parce qu'on lit les choses et qu'on voit ce qui se passe et qu'il y a une forme aussi de... Quand on se sent powerless, incapable d'amener une solution, en fait, on est un peu sans... Voilà. Et donc, on est face aussi à notre impuissance. Voilà, c'est le mot.
Ouais, c'est ça. Moi aussi, je cherche la bonne traduction. Ouais. Yasmine, t'es née au Liban, donc en 1976. C'était au tout début de la guerre civile. Ouais. Très vite, ta famille s'est exilée aux Émirats Arabes Unis, en Grèce, au Koweït. Mm-hmm. Ça veut dire que toute ton enfance, elle a été marquée à la fois par l'expérience de l'exil, mais aussi par celle de la guerre, de la violence. Comment est-ce qu'on se construit avec ce bagage-là, dès la petite enfance ?
Moi, j'ai eu beaucoup de chance quand même, parce que il y a des gens qui sont restés et nous, on a eu la chance de pouvoir partir, retourner, mais repartir, etc. Donc, j'ai quand même eu ce privilège. J'étais dans des lycées français, c'est pour ça que je parle français comme ça. Il y avait une forme de continuité, mais c'est vrai que j'ai vécu des ruptures toute ma vie, liées à la guerre, liées au sentiment aussi que les choses ne vont pas changer forcément. Et voilà, à chaque fois qu'on sent qu'on est arrivé au maximum, il y a toujours encore plus. Et là, ce qu'on vit, voilà, on est dans ça, maintenant. On pense que c'est la fin, que ça va aller mieux, mais en fait, ça ne va jamais vraiment mieux. Donc, il faut accepter l'idée, mais ce n'est pas une chose facile, en réalité. Mais ce qui s'est bâti entre le Liban, enfin, dans mon rapport avec le Liban, l'équation, c'est que quand je suis rentrée au Liban, je ne me sentais pas vraiment chez moi, mais c'était un peu chez moi aussi. Et donc, j'ai dû retisser le lien, et donc la musique a aidé. Parce que c'est comme ça que je me suis un peu brodée ma propre histoire, ma propre chronologie des choses, le lien que je voulais tisser. Et je ne comprenais pas les codes forcément du pays, et je ne les acceptais pas toutes. Et donc ça m'a donné aussi une forme de liberté, je trouve.
Mais justement, dans le morceau Hon, il y a ce son très symbolique que tu utilises au milieu de la chanson.
C'est la sirène.
C'est celui-ci, exactement.
C'est un son que j'ai entendu.
En fait, ce qui m'a frappé, c'est que cette sirène d'urgence, c'est un peu le son de l'angoisse. Et toi, t'en as fait de la musique.
Bah, en fait, j'ai voulu, à chaque fois que je veux parler d'une expérience difficile ou quoi, en fait, c'est une matière, en réalité. Donc, il n'est pas question de garder ça dans le contexte de la souffrance. En fait, l'idée, c'est de transformer ça. Et ce qui est formidable avec la musique, c'est que j'ai la chance de pouvoir communiquer avec des musiciens qui vont venir m'aider à articuler mon idée et à l'enrichir. En réalité. Donc oui, ça devient un terrain de jeu. Et c'est ça qui est vraiment fascinant, parce qu'on ne s'arrête pas à la souffrance. La souffrance, elle arrive, tout le monde souffre, tout le monde a des moments difficiles, la vie n'est pas facile. Mais après, qu'est-ce qu'on en fait ? Et je sens que c'est un privilège de pouvoir, en tout cas, se trouver dans un studio avec des gens qu'on apprécie, avec des musiciens qui ont du talent. Chacun amène son univers, et il amène sa part, sa patte, et ça devient un truc alchimique. Pour moi, c'est de la poésie.
Cette façon de prendre ce qui peut être de la souffrance pour en faire de l'art et de le faire aussi dans une démarche collective, ça me rappelle... j'ai lu de vieilles interviews dans lesquelles tu racontais qu'à ton retour au Liban à la fin de la guerre civile, même si la ville était à moitié détruite, enfin, au retour à Beyrouth, même si le courant électrique ne marchait pas, même si les routes étaient très abîmées, on sentait sur les visages et dans l'air comme le début de quelque chose, comme une espèce de créativité, comme la vie qui reprend.
Ben oui, en fait, moi, j'habitais avant ça au Koweït. Donc moi, j'ai vécu l'invasion irakienne. et quand on est rentré au Liban, c'était un début pour moi aussi. Donc moi, je vivais une nouvelle... c'était la première fois à cet âge-là, j'avais 14 ans, je crois, ou 13 ans, je ne sais plus, que je vivais, que je me disais, bon, là, on ne va plus bouger, je crois. On va rester. Et donc, je commençais à sentir le pays. Et je me rappelle, quand je me réveillais le matin, j'entendais les bruits. On habitait au 10e étage. J'entendais les bruits des voitures. La ville est toujours animée, toujours vivante. Il y avait une joie, quelque part. Malgré le fait que, sur tous les immeubles, dans le pays, pendant des années, il y avait les traces de la guerre et les traces de cette... je ne sais pas si le mot, c'est la souffrance, mais oui, je crois. Et donc, moi, mon adolescence s'est passée dans ce contexte-là, un peu, et ça a fait que j'étais un peu mélancolique, parce que on avait hérité de quelque chose qui ne nous appartenait pas, qui n'est pas fini, parce que les gens qui ont fait la guerre ont toujours été au pouvoir, ils ont repris le pouvoir autrement. Et donc, d'être face à ça, quelque part, il y avait une forme de cynisme dans cette fin de guerre. Et d'ailleurs, on voit maintenant que les choses ne sont pas finies, justement. Donc oui, mais Beyrouth, c'était à la fois... Il y a quelque chose de très poétique aussi, de très doux. Il y a la mer, il y avait des choses qui m'ont vraiment touchée dans cette ville et qui ont fait que j'avais eu envie de faire de la musique et qui m'ont donné ce sentiment de liberté.
Yasmine, dans ce nouvel album, t'es allée puiser dans de très nombreuses traditions musicales et bien au-delà du Liban. Il y a par exemple la musique traditionnelle palestinienne sur ce titre qui commence derrière moi. On l'écoute ensemble et tu nous expliques tout juste après. Le titre s'appelle Shmali, il est signé Yasmine Hamdan qui est mon invitée dans ta page jusqu'à 21h. Et Yasmine, je disais que cet air, il est tiré du répertoire traditionnel palestinien.
Oui, c'est un morceau du folklore qui vient d'une forme de musique palestinienne traditionnelle qui s'appelle le Tarwida. Et le Tarwida, c'était des chansons avec des messages codés. Des chansons en fait où les paroles sont transformées pour en faire des messages codés. Et on pense que ce morceau-là en particulier vient de l'époque, de la fin de l'époque de l'Empire ottoman et du début du mandat anglais. Et en fait, les femmes allaient aux portes des prisons, chanter ces chansons et faisaient rentrer des messages codés dans les chansons pour s'adresser à leur mari ou frère ou les personnes qu'ils aimaient qui étaient emprisonnées. Et j'ai pensé que ce morceau était toujours d'actualité. Et j'avais très envie de le... Déjà, quand je l'ai écouté, j'ai trouvé ça fascinant parce que je ne comprenais pas les paroles. Et la mélodie était très catchy. Et j'ai voulu en faire une version victorieuse.
C'est intéressant cette idée du message codé par la musique. Parce que moi, ça me rappelle certaines pratiques qui pouvaient avoir lieu, par exemple, en Afrique du Sud pendant l'apartheid, où il y avait des chants contestataires qui étaient chantés dans des langages locaux, comme le Xhosa, ou même parfois en anglais, qui étaient sur des rythmes très entraînants, très joyeux, et qui, en fait, permettaient de faire passer des messages sans que les dirigeants politiques, en tout cas les blancs qui tenaient le pays, puissent comprendre de quoi il s'agissait.
Je pense que c'est une pratique qui s'est faite à plein d'endroits par beaucoup de gens. Et c'est intéressant de retrouver justement l'archéologie des messages ou des chansons codées dans les messages.
Ça, c'est intéressant parce que j'ai l'impression que tu es une vraie archéologue dans ta manière de fonctionner.
En tout cas, j'aimerais l'être. Mais ce que j'aime, en fait, c'est de chercher, c'est de fouiner, c'est d'explorer. C'est vrai que pour faire un album, j'ai besoin d'écouter beaucoup de choses, de faire des liens, d'avoir des mots, plein de mots. C'est terrible parce que je me retrouve avec un puzzle des mots qui n'ont absolument rien à voir les uns avec les autres, mais des mots que j'aime bien, qui ont une espèce de vibration qui me plaît. Et parfois même, je commence des morceaux parce que j'aime bien un mot. Et je me dis, je veux faire un morceau avec ce mot. Et ça peut être un début d'une chanson. Donc c'est vrai que j'ai une manière de travailler qui est un peu bizarre. Mais je cherche partout des signes, que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit dans des livres, dans de la poésie, que ce soit quand, par exemple, mon partenaire, s'il dit un mot Parfois, ils me voient faire des yeux bizarres et je rentre dans la chambre et j'écris le mot. Ou parfois, je l'écoute parler avec son frère et je commence à prendre des notes. Bon, il m'arrive de faire ce genre de choses. Ou dans les taxis, j'ai beaucoup de chansons où je suis inspirée de personnages de taxi à Beyrouth. De discussions et de mots et de personnages. Je ne sais pas pourquoi, quand je monte dans un taxi à Beyrouth, ils me racontent, souvent c'est des hommes, et souvent ils me racontent l'histoire de leur vie. Et donc j'enregistre parfois, et je me retrouve avec des mots, des gens un peu farfelus. Un taxi au Liban, c'est un peu comme le métro. C'est un endroit un peu collectif, parce qu'il n'y a pas de métro, il n'y a pas vraiment de transport en commun, à part les taxis ou les services. Donc pour moi, c'est un endroit où il y a beaucoup d'air, beaucoup de choses qui se croisent. Donc quand je vais au Liban, je prends beaucoup de taxis pour avoir beaucoup de notes, pour rentrer faire des chansons.
Et ça me rappelle ce film iranien de Jafar Panahi, si je ne me trompe pas, Taxi Téhéran, qui a été filmé clandestinement, uniquement à bord d'un taxi. Dans ton album, Yasmine, il y a aussi un morceau qui s'appelle, alors j'espère que je le prononce bien, du Mouacha, qui est une forme de poésie arabo-andalouse. Il y a aussi des percussions qui lorgnent vers la musique classique indienne et pakistanaise. Et dans le morceau qui donne son titre à l'album, I Remember, I Forget, moi j'entends comme du rock un peu touareg à la Tina Riwen. Et puis j'ai lu que tu manies aussi différents arabes, que tu passes d'un dialecte à l'autre, qu'il y a du libanais, de l'égyptien, du palestinien. Un peu comme si tu avais voulu forger une sorte de son pan-arabe. Est-ce que le mot te convient ?
Oui, peut-être. Tu sais, les frontières sont très récentes. Les pays arabes, au départ, n'existaient pas. Les États-nations n'existaient pas il y a quelques années. Donc, c'est vrai que, en fait, la culture et la langue a toujours circulé. Ce qui m'intéresse, en fait, c'est de brouiller les pistes et d'effacer les frontières. Et je ne vois pas de contradiction entre, justement, chanter sur une musique touareg ou alors sur une musique indienne. Ce qui m'intéresse vraiment, c'est comment la musique peut circuler et peut m'amener à des émotions différentes, à exprimer des émotions différentes.
Et tu disais tout à l'heure que, adolescente, quand tu es revenue à Beyrouth et que tu as commencé à faire de la musique, tu étais un peu perdue par rapport à ton identité libanaise, à ton rapport au pays, et que la musique t'a aidé à en faire sens. Est-ce que ce grand patchwork de musique venue de tout le monde arabe et même au-delà du monde arabe, c'est aussi une façon de chercher ton identité là-dedans ?
Oui, parce qu'on n'a pas une seule identité, parce qu'on est pluriel, et parce que quand j'ai commencé à faire de la musique, en réalité, j'écoutais beaucoup, beaucoup de vieille musique. J'aime bien me plonger dans différentes influences, différents pays, mais aussi différentes époques. Et moi, j'étais fascinée par les années 40 et 30 et 50 et 60 et 70, et je collectionnais beaucoup de musique arabe ancienne. Et j'ai des phases où j'obsédais sur des artistes comme Asmahan ou Abdel Wahab. J'ai eu vraiment eu ma phase Égypte. Ensuite, et bien sûr Beyrouth, Liban, Ziad Rahbani, Fayrouz, tout ça. Mais en parallèle, j'écoutais, et je me rappelle quand j'ai commencé à chanter, je répétais des chansons de Etta James ou j'adorais Janis Joplin. J'essayais de faire la voix cassée de Janis Joplin. J'écoutais beaucoup de musique, un peu de tous les styles, pour essayer de comprendre en fait ce que j'avais envie de faire. Et c'est souvent ma manière au final, quand je suis arrivée à articuler un peu mon goût, c'était abstrait. Je ne savais pas pourquoi je pouvais aimer, par exemple, Kate Bush ou alors Neil Young. Je ne sais pas pourquoi j'étais vraiment sensible à leur musique. C'est des choses en fait qui sont abstraites, donc en réalité ce qui est formidable, c'est d'avoir tous ces éléments-là qui nourrissent ton imaginaire, parce que l'imaginaire, c'est la joie,
et qui s'hybrident depuis le départ dans la musique que tu fais. Ce qui est intéressant, c'est que les musiques arabes, c'est aussi des musiques qui sont très codifiées, très strictes. Il y a quelque chose d'un peu transgressif à les prendre pour aller les mélanger avec autre chose.
Oui, mais moi, au début, quand j'ai commencé à chanter en arabe, il n'était pas question que je suive les codes. D'ailleurs, je ne pouvais pas prétendre que je les connaissais. Et de toute façon, de facto, je l'ai refusé. Donc, c'est vrai que je faisais de la musique un peu, de manière un peu punk, c'est-à-dire, it's me or the highway. C'est-à-dire, je faisais comme j'avais envie de faire, parce que je voulais être sincère. Et il n'était pas question pour moi de faire du mimétisme.
Et est-ce qu'on te l'a déjà reproché ? Est-ce qu'on t'a déjà dit, qu'est-ce qu'elle fait avec notre patrimoine musical, celle-là ?
Ah oui, au tout début, oui. Au tout début... Pendant des années, en fait, j'ai été, comme je disais, j'ai été un peu classée... Oh, elle chante pas de l'arabe, elle. J'ai eu droit à beaucoup de bad vibes, mais alors
Yasmine, il va être l'heure du deuxième live. Et justement, tu nous as préparé une petite reprise. Mm-hmm. C'est un hommage à une très grande dame de la chanson libanaise qui s'appelle Fayrouz, que tu as déjà citée. Je te propose donc de rejoindre à nouveau tes musiciens et tu vas nous présenter à la fois ce titre et Fayrouz juste après qu'on l'ait écouté. C'est donc Yasmine Hamdan qui reprend Fayrouz spécialement pour ta page. On en a de la chance sur France Inter.
اترك هالأسى ويرجع لي حبي صباح ومساء شو بدي دور لشو عم دور علي في ناس كتير لكن بصير ما في غيره تركت الحب واخذت الأسى صباح ومساء شي ما بينتسى تركت الحب واخذت الأسى لعل وعسى اترك هالأسى ويرجع لي حبي صباح حبيبي كان هاني وسهيان ما في غير حمل سنين منن هينين كتر خيره شو بدي دور لشو عم دور على غير
C'était une reprise de la diva libanaise Fayrouz par Yasmine Hamdan en exclusivité pour ta page. Un live à retrouver très bientôt en vidéo sur les réseaux de France Inter.
Ta page. Camille Diao. Sur France Inter.
Merci Yasmine.
Merci, merci. Bah... bon, merci les musiciens, hein, quand même, ils ont découvert le morceau aujourd'hui.
Ah ouais,
ouais.
Bravo aux musiciens, je rappelle leur nom. Raphaël Séguigny à la batterie, Cédric Leroux à la guitare et Kang Min Pham au clavier. C'était donc une reprise de Fayrouz, donc grande diva libanaise. J'imagine que chanter Fayrouz, c'est un peu comme une sorte de retour aux sources.
Oui, mais en fait, c'est un morceau que j'aime beaucoup. Je le chantais à ma petite sœur. Je ne sais pas, elle devait avoir 5 ans. Et je lui faisais répéter les paroles dramatiques derrière moi. Enfin, je trouve que c'est un beau morceau qui me rappelle beaucoup de choses. Et c'est surtout un morceau aussi qui a été écrit par Ziad Rahbani, qui est le fils de Fayrouz, et qui vient de décéder cet été, et que j'aimais beaucoup, qui est une personne... vraiment extrêmement talentueuse et voilà, j'étais triste qu'il parte, mais il a laissé derrière lui énormément de musique et il a permis aussi à Fayrouz de se renouveler. C'est-à-dire qu'au moment où, après une certaine période, Fayrouz qui travaillait avec son mari et la famille de son mari, si tu veux, Ziad Rahbani lui a permis de revenir avec une nouvelle identité, avec quelque chose de générationnellement plus proche. Et c'est vrai qu'elle accompagne depuis des années, je ne sais pas, 7, 8, 9, 10 générations grâce à ça. C'est qu'elle a toujours su chanter les bonnes chansons et voilà, elle était entourée par tous ses talents.
Fayrouz, comme un retour aux sources, je disais. Et en parlant de retour aux sources, Yasmine, tu as travaillé sur ce nouvel album avec un musicien qui s'appelle Marc Collin. Tu le citais tout à l'heure,
oui.
Qui est le fondateur pour les connaisseurs du projet Nouvelle Vague. Marc Collin, avec qui tu avais travaillé sur ton tout premier album. Et il avait très envie de te laisser un petit message à l'occasion de ton passage dans ta page.
Salut Yasmine. Je me souviens très bien de notre rencontre, début 2000. J'avais un studio dans le 16e à l'époque. Et tu débarques et tu me dis tout de suite, « Ah voilà, je t'ai amené du couscous. Est-ce que tu as faim ?» J'étais hyper surpris parce qu'en fait, les chanteuses que je ne connais pas ne m'amènent pas comme ça à déjeuner. Et puis encore moins du couscous. Donc tout de suite, ça a donné le ton de notre relation après. En fait, comme on travaille finalement dans une sorte de simplicité. C'était une rencontre super agréable et on en parle encore 20 ans après pour ce nouvel album.
Tu t'en souviens de ce couscous, Yasmine ?
Aucun souvenir, mais je suis capable de faire ça. Alors, quand je viens chez quelqu'un, je ramène des cadeaux, souvent. Et peut-être que j'avais faim et que j'ai voulu ramener du couscous. Je voulais manger du couscous ce jour-là. Et j'en ai ramené à Marc. Sait-on jamais.
Le retrouver pour cet album-là, c'était une façon de revenir aux sensations d'il y a quelques années pour ce premier album solo ?
Oui, en fait, avec Marc, déjà, on s'amuse bien ensemble. C'est quelqu'un de très talentueux, de très inspiré, il est très efficace. On est complémentaires parce que lui, il est plutôt dans l'efficacité, dans la rapidité, voilà. Et moi, je suis dans le détail du détail, de l'obsession. Et donc, ce qui fait que... Et il connaît mon rythme, je connais son rythme. Donc, quand on travaille ensemble, on s'amuse, vraiment. Il a un studio super, avec plein de synthés géniaux et tout. Et il est toujours très positif. Donc, il réagit toujours de manière très positive aux propositions. Et puis, moi, je reviens chez moi et je travaille. Et je travaille, je reviens 2 mois plus tard et réagis de la même manière. Et puis, on rythme. Notre collaboration est rythmée par des absences, des retours, des choses comme ça, et on est très libres tous les deux dans le rapport de travail. Aucun stress. Et donc, ouais, on s'entend très bien, puis on connaît beaucoup de musiciens. On travaille vraiment bien ensemble.
Et ben on embrasse Marc Collin.
Ah, mais très fort.
Yasmine, on arrive dans la toute dernière ligne droite de l'émission. Et comme on est samedi soir, je t'ai demandé de venir avec un titre pour nous faire danser. Histoire d'avoir un petit aperçu de la fête, selon Yasmine Hamdan. Alors, t'as choisi cette petite pépite. C'est du rock soudanais.
Ouais.
On l'écoute et on en parle juste après.
Thank you. بتنجح بتنجح وضعش أيامك وضعش أيامك حلوة جميلة أرقص فرفش خلك رايق أرقص فرفش ما تكون ضايق أرقص فرفش خلك رايق أرقص فرفش ما تكون ضايق فكر واجدح في أعمالك فكر واجدح في أعمالك لازم تنجح ويصبح حالك كله سعادة حلوة جميلة
Le son du Soudan des années 60, c'était le choix de Yasmine Hamdan pour votre samedi soir. Un certain Charalbil Ahmed, j'espère que je le dis bien. Dis-le mieux que moi, Yasmine, s'il te plaît.
Non, ça va, tu le dis bien, mais c'est vrai qu'il a un nom un peu particulier et c'est vrai que moi je l'ai découvert avec Habibi Funk, qui est le label berlinois.
Qui réédite plein de pépites oubliées de
voilà,
tout le monde arabe.
Et il a réédité plein de choses magnifiques. Et c'est vrai que moi, j'adore aussi la musique soudanaise. Je suis fascinée par le Silk Road,
la route de la soie.
La route de la soie, comment la musique, en fait, quand on écoute de la musique au Soudan, ils ont les mêmes gammes et beaucoup de similarités avec certaines musiques chinoises, etc. Et voilà, quand je suis tombée dessus, je me suis dit, c'est le morceau.
Et bien, si vous avez aimé ce titre, je vous renvoie aux compilations de Habibi Funk, qui sont absolument géniales. Yasmine, on se quitte sur ces mots-là, puisqu'il est déjà l'heure de se dire au revoir. Merci beaucoup d'être venue dans ta page.
Merci.
Ton album, il s'appelle I Remember, I Forget. Vraiment, je le conseille à tous nos auditrices et tous nos auditeurs. Pour te voir sur scène, c'est à partir du mois de février. La tournée, elle passe dans plusieurs villes de France et il y a une date à Paris au Trianon le 18 mars.
Yes.
Merci encore pour tout et
merci,
à bientôt Yasmine.
Merci.
Allez, on se quitte en musique avec un morceau qui devrait te plaire. C'est le Nigérian Obong Jayar, Just Cool sur France Inter.
Explosives, stressing all of the time. I can't just cool, just let me cool. Don't sucker, sucker, don't take me for no sucker. I just want to cool, just let me cool. Don't sucker, sucker, you're such a motherfucker. Just let me cool, I just want to cool. On the doorstep, don't let me in. Take off your shoes, keep my house clean. Spread your silence for all them that breed disease. The government man keeps smothering, it's so hot. Hyperbolic.
catastrophic scatterbrain. This is one diabolic, catatonic shipperade. Everybody just go away. There's nothing new to celebrate. There's nowhere left to run away. They're closing up the open seas. They're locking off the runway. They keep telling me the one thing, so far from everything I see. Your hands are covered in bloodstains. Your hands are covered in bloodstains. Go